Allez, bonjour à tous. Chose promise, chose due, le voilà enfin. Nous sommes avec Mathieu Simon du Team Brooks, Mathieu 3e des Templiers 2022. Course qui lui plaît puisqu'il était déjà 13e en 2021. Maintenant, le garçon cote à 860. 9e du marathon de la Trans-Grand Canaria. Vous l'aviez entendu en janvier, Mathieu, ici même. Il préparait le championnat de France et il y a pas eu de championnat de France. Alors on va enquêter pourquoi. Bonjour Mathieu, comment tu vas aujourd'hui?
Salut Hugo, salut à tous. Eh bien, écoutez, ça va très très bien. J'ai bien récupéré de ma dernière course et tout va bien.
Et oui, ta dernière course parce que donc on va revenir sur ce qui t'a un petit peu occupé tout ce moment-là, mais là au moment où je te prends à l'audio, tu sors du Ah, j'ai perdu le nom du Trail du Saint-Jacques que t'as gagné, quoi.
Tout à fait, voilà, c'est ça, du
Ah là, j'ai
75 km.
bouffé le nom. Le nom. Donc
Du
c'est bien.
75.
C'est bien, on va pouvoir parler de ce qui t'a enquiquiné jusque-là et puis finir sur cette belle note positive.
Eh bien exactement, voilà. Il y a eu du beaucoup, enfin beaucoup de mieux depuis cette période compliquée où on va pouvoir en discuter un petit peu.
Ouais, parce que nous, on t'avait interviewé pour la revue de presse du 16 janvier.
C'est ça.
Mais tu étais en pleine préparation du championnat de France, tu fais 3e des Templiers, on se disait, putain, le gars, il va viser un podium, c'est exceptionnel et tout. Et il n'y a pas eu de championnat de France. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Alors, il y a pas eu de championnat de France. Enfin, du moins, il y a eu que les 45 premiers kilomètres qui ont été vraiment très compliqués. Mais il n'y a pas eu de championnat de France, on va dire. J'ai pas été finisher de ces championnats de France parce que j'ai contracté un petit souci musculaire, on va dire 15 jours avant les championnats de France, qui m'a pas mal enquiquiné. Donc, avec un peu de recul. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, on n'a pas vraiment trouvé exactement ce qui s'est passé. On a des grosses pistes, mais pour savoir vraiment précisément, c'est très compliqué. On pense tout simplement que derrière la Trans-Grand Canaria, en fait, musculairement, je n'ai pas bien récupéré la descente, tout le dénivelé négatif que j'ai subi sur les Canaries, sur ce marathon de la Trans-Grand Canaria. A malheureusement été enfin voilà m'a donné quand même pas mal de problèmes au niveau musculaire parce qu'en fait derrière la Trans-Grand Canaria qui se trouvait 3 semaines avant les France, j'ai fait une semaine du coup un petit peu allégée en début de semaine et je suis parti au champ enfin reconnaître le parcours des championnats de France 15 jours avant en faisant la reco du parcours du court, le lendemain les 30 derniers kilomètres appuyés du parcours du long. Et il est vrai que j'avais des sensations, on va dire, normales. J'ai fini très fatigué, enfin fatigué musculairement, mais en fin de prépa, ce qui est tout à fait logique, il n'y avait pas vraiment d'alarme à ce niveau. Mais au bout de, on va dire, en fait, après, j'ai fait une semaine light sur S-2 avant les France. Et au bout de enfin, à la fin de cette semaine, dans le week-end, on a remis un peu l'intensité. Et lorsqu'on a remis de l'intensité, là, j'ai eu des sensations catastrophique que je n'ai jamais connu auparavant. En fait, c'est une sensation de perte de puissance au niveau des quadriceps. Alors, c'était uniquement au niveau quadri. Donc, une perte de puissance au niveau des quadris, l'impression de pas avancer. Alors, en fait, dans les montées, ça me donnait l'impression d'avoir pas de puissance, d'avoir les jambes lourdes. Et en descente, en fait, j'avais comme des espèces de coups de couteau, de petits coups de couteau, en fait, mais à peine sur une descente de 80 de D-, parce que chez moi, les plus grosses montées, elles font 100 mètres de D+. Donc, quand je descends, c'est du petit dénivelé négatif. Et même sur des micro-descentes comme ça, entre 80 et 100 mètres de dénivelé négatif, j'avais ces sensations-là de coups de couteau. Donc, sur le plat, en fait, ce qui se passait, c'est que les bosses, en fait, au niveau rendement, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'étais vraiment pas efficace. Donc, du coup, je puisais énormément dans les montées. Et après, quand il fallait relancer sur le plat, je n'avais pas de jambes. J'avais les jambes hyper lourdes, aucune sensation et vraiment quelque chose de très, très bizarre. Et en remettant de l'intensité, ça s'est arrivé comme ça. Et ça a duré, en fait, toute la semaine après, avant les championnats de France, où là, on a commencé à quand même pas mal s'inquiéter. On a essayé de faire 2 jours de repos d'affilée. Enfin, de faire un lundi ou deux repos de la semaine avant les France, y compris le mercredi, de courir vraiment un jour sur deux. Et on s'est rendu compte qu'en faisant un deuxième jour de repos, donc le mercredi, c'était encore pire. En fait, j'avais l'impression de plus je faisais du repos, plus c'était pire. Donc, on a essayé de recourir le jeudi, le vendredi et courir non-stop jusqu'aux France, qui avait lieu le dimanche matin. Et malheureusement, c'est jamais vraiment revenu. La veille des France, j'ai retrouvé une mini sensation de jambes légères, mais j'étais vraiment très poussif. En fait, j'arrivais pas à aller dès que j'atteignais 85% FC max. Du coup, j'arrivais pas en fait à aller au-delà quoi. Je subissais énormément et du coup, c'est ce qui s'est passé le lendemain au championnat de France, c'est que j'ai voulu quand même prendre le départ. Et dès la première montée, j'ai subi énormément. En haut, ça a été un vrai calvaire pour relancer. Et pour tenir surtout le groupe de tête, c'était très, très compliqué. Et au kilomètre 35, je suis arrivé vraiment très, très mal. Musculairement, j'étais en fait détruit, comme si j'avais fait 70 km, comme si j'avais 70 km dans les jambes, en fait. Et donc voilà, donc c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai continué 15, enfin, 10 km de plus où j'ai pris la décision après d'abandonner. Mais voilà un petit peu ce qui s'est passé, on va dire, avant les championnats de France. Mais voilà, j'ai fait des bilans sanguins où il n'y a pas eu de choses critiques, de choses anormales au niveau sanguin. Juste après les Canaries, une petite, on va dire, j'avais une carence en vitamine D, donc j'ai dû faire prendre un petit peu de vitamine D. Mais c'est tout ce qui a été retenu sur la prise de sang, on va dire d'anormal. Mais après le reste, on n'a pas vraiment su exactement ce qui s'est passé. Alors, on m'a diagnostiqué, mon médecin du sport m'a diagnostiqué un début de rhabdomyolyse, voilà, une mini rhabdomyolyse. C'est dû à une évolution des CPK, sauf que mes CPK n'étaient pas du tout élevés. Une semaine avant les France, il faut savoir que une semaine ou avant les championnats de France, on a fait une prise de sang un vendredi matin. Je suis parti travailler après. Je suis allé courir en début d'après-midi et on a refait une prise de sang derrière pour voir à jeun le niveau des CPK et pour voir le niveau des CPK ensuite après avoir fait un effort physique. Donc là, on s'était dit, voilà, on court 1 heure et même s'il y a une douleur, qu'il y a des gènes, on court quand même pendant 1 heure et on fait le bilan après. Et en fait, les CPK n'ont pas énormément évolué derrière. Et donc voilà, donc ça venait vraiment, ça pouvait venir de là, mais enfin, pas vraiment, quoi. On n'a pas su exactement ce que c'était.
Ah, ok, bah, j'avais quelques questions pour essayer de t'orienter un peu comme ça. On va voir. Est-ce que par exemple, quand tu as réalisé ta préparation hivernale, du coup, avant le marathon de la Transgran Canaria, qu'est-ce que tu as fait un petit peu? Est-ce que c'était un peu comme d'hab au niveau du kilométrage, au niveau du dénivelé? Qu'est-ce que tu as pu noter cet hiver?
Alors, ben, cet hiver, j'ai fait peut-être l'hiver le plus, le, enfin, mon meilleur hiver en termes d'entraînement. Alors, pourquoi je dis enfin, le meilleur hiver? Tout simplement parce que je n'ai pas été blessé une seule fois pendant plus de 3 mois, que j'ai pu enchaîner toutes les séances qui étaient
Ah, parce
prévues.
que tu te blesses souvent, Mathieu?
Alors, je me blesse pas, mais j'ai des fois des petits pépins
Ouais.
physiques, des petites douleurs par-ci, par-là, et qui au début étaient très compliquées à gérer parce que comme je ne suis pas coureur de base, c'est vrai que j'ai tendance à avoir les mollets qui chargent très vite sur le plat, donc des fois on était sujet à des petites douleurs au mollet. Alors voilà, c'est des petits gènes par-ci, par-là. Après, j'avais une petite gêne aussi, voilà, j'ai une petite fissure au niveau du ménisque depuis maintenant un petit bout de temps qu'on a trouvé l'an dernier, qui me gênait pas mal. En fait, cette fissure au ménisque, elle venait, si tu veux, générer un kyste en fait méniscal, parce que j'ai du liquide de synovie qui s'est penché le long de cette fissure, en fait, qui venait me générer un kyste. Et à l'effort, en fait, le kyste grossissait et venait me générer des douleurs au niveau du TFL, en fait, au niveau de l'insertion du TFL,
Ah
au
ouais,
niveau
chiant.
du cuisseau, enfin, au niveau, voilà, au niveau des cuisses, au niveau surtout du bas du quadri. Et donc ça, des fois, c'était un peu difficile à gérer parce que ça venait pas forcément en grosse période de travail. Donc c'était très aléatoire, très bizarre. Donc maintenant on a trouvé ce qu'il y avait. Après, du coup, on m'a sorti le kyste. Donc maintenant je suis plus embêté avec ça. Et c'est vrai que dans l'hiver, du coup, j'ai pas été embêté avec le genou. J'ai été embêté avec rien du tout. J'ai pu enchaîner. J'ai fait quand même pas mal de séances sur piste avec des chaussures assez minimalistes qui, par le passé, m'auraient provoqué des grosses douleurs au mollet où j'aurais été emmerdé. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai fait un hiver très studieux, un très très bon hiver. Après, bien évidemment. C'est clair et net, ce qui m'a manqué, c'est la montagne. Moi, il faut savoir, voilà, que j'habite pas du tout dans un massif montagneux, comme j'ai dit tout à l'heure. Mes plus grosses montées, c'est 100 mètres de D+. Et encore, 100 mètres de D+, c'est sur une bosse, c'est quand même assez rare. C'est quand même plutôt entre 40 et 80 mètres de D+ que je vais prendre sur une bosse. Du coup, je suis allé en montagne une fois entre Noël et le premier de l'an. Et avant les Canaries, du coup, après, lors du stage Brooks dans le Luberon, qui n'est pas vraiment de la montagne, quoi, où on a pris des bosses de 400 mètres de D+. plus, entre 300 et 400 mètres maximum, et encore sur
C'était
2 jours
quand le
d'entraînement.
stage Brooks? C'était avant les Canaries?
Ouais, tout ça, c'était avant les Canaries. C'était le
Ouais.
stage Brooks, c'était, on va dire, je crois, la deuxième semaine de janvier. Et ensuite, derrière la troisième semaine de janvier, c'est là que j'ai fait le stage de reconnaissance des championnats de France avec la structure de ZEP. Et là, on a fait voilà, le dénivelé, ben, forcément, qu'on va retrouver sur les championnats de France, donc de la, entre guillemets, moyenne montagne. Et là, je suis
Ouais.
arrivé, et du coup, je suis arrivé sur les Canaries avec une course où on a moins 3000 en ayant fait seulement ça au niveau de la montagne. Donc là, j'ai vraiment ramassé. Là où je pense que j'ai fait une petite bêtise, c'est que le lendemain, voilà, dans l'excitation d'être là-bas, de vouloir aussi profiter de l'île, je suis reparti faire 3 heures de sortie le lendemain du marathon, où
Ah ouais,
j'avais
ça,
des
faut jamais
courbatures.
faire ça.
Voilà, j'avais des courbatures et les cuisses vraiment défoncées. Et on a refait moins 1000, enfin, j'ai refait, ouais, moins 1008 avec les copains du Team Brooks. Donc voilà, ce qui n'était pas du tout raisonnable. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, il y avait un petit peu de fatigue aussi parce que cette semaine-là, j'avais été de matin. Donc c'est des réveils à 4 heures du matin quand je suis des semaines de matin. Donc on est parti aux Canaries le mercredi. J'ai travaillé lundi, mardi de matin. Donc je sais qu'au niveau, au niveau de la fatigue, ce n'était pas optimal du tout. Enfin, le sommeil, tout ça, ce n'était pas ouf. Surtout que je me suis levé à 3 heures du matin le mercredi pour partir aux Canaries pour prendre l'avion. Donc voilà, tout ça réuni, c'est vrai que sur la semaine, c'était vraiment pas optimal du tout. Et en fait, j'ai chopé, je pense, une petite fatigue musculaire, même une grosse fatigue musculaire. Et derrière, c'est ce qui a engendré un petit peu les pépins physiques que j'ai eus parce que la semaine après les Canaries, qui était donc du coup la semaine avant d'aller faire le dernier week-end à 15 jours des France, assez volumineux du côté de Millau. Cette semaine-là, en fait, on a fait un lundi repos. J'avais fait le mardi qu'un petit peu de vélo. Le mercredi, on avait fait à nouveau du repos, en sachant que le dimanche, il y avait une journée dans l'avion, donc qui était basée sur du repos aussi. Donc, pour vraiment bien assimiler ces Canaries. Et le vendredi, je me rappelle avoir fait une sortie de 2 heures en trail chez moi, avec un peu d'allure sur des blocs de 15 minutes. Et là, j'ai eu des sensations vraiment, pas vraiment, enfin, pas optimales, vraiment pas ouf, où j'étais très, très poussif. Et je me souviens avoir fini par 2 km de plat pour rentrer à la maison, et j'avais les jambes vraiment chargées. Mais au niveau, alors pas des douleurs, pas des courbatures, mais vraiment chargé musculairement au niveau fatigue. Et j'ai senti vraiment de la fatigue musculaire. Et je me souviens le lendemain être parti, donc du coup, enfin, le soir même à Millau. Et le lendemain matin, on a fait l'arco du parcours du cours à plusieurs. Et je me rappelle là sur cette sortie de 30 km, vraiment en mode cool, avoir eu des sensations vraiment pourries en descente. En fait, j'avais l'impression tout simplement de faire les premières descentes de la saison, de faire le premier dénivelé négatif de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a cette sensation où les cuisses, elles chargent vite à cause des descentes, et qu'on a l'impression d'avoir les jambes lourdes, parce que c'est la première fois qu'on fait du dénivelé depuis un petit moment, et là, j'ai eu exactement les mêmes jambes. Donc tout ça, avec du recul, ce sont des petites alertes que j'avais eues, mais sur le moment, je ne pouvais pas vraiment savoir parce qu'il n'y avait pas une alerte, on va dire, brutale, il n'y avait pas un arrêt brutal où il fallait se remettre en question. C'était que des petites, voilà, des petites alertes, mais c'était rien de bien méchant, ça ne me permettait pas d'arrêter l'entraînement ou autre. Donc là, à ce stade-là, on ne pouvait pas vraiment imaginer par la suite que j'allais être embêté comme ça.
Ouais, c'est ce que tu dis, tu vois, quand on va sur ton Strava, t'as 4000, ouais, après les Canaries, en fait, tu fais le double la semaine d'après de dénivelé négatif. Mais bon, la sanction paraît un peu lourde par rapport à l'effort. Après, bon. Ok, ouais, donc,
C'est
ouais,
ça, ouais.
l'hiver
Et
était bon, quoi, hein, et
l'hiver était bon.
la course a été bonne aux Canaries.
Ah ben, l'hiver a été bon, la course aux Canaries a été bonne, malgré le fait que je sois allé que ben, c'est voilà, une fois en montagne à Noël. Et après, on n'appelle pas vraiment ça de la montagne, parce qu'une Rocco des France du côté de Millau, ce n'est pas vraiment de la montagne. Alors, c'est pas attention, quand je dis c'est pas de la montagne, je vais plutôt faire référence à de longues descentes. Voilà, je n'ai pas fait de longues descentes, hormis à Noël, quand je suis allé en Ariège chez mon père, où là on parle de descente. Après, le Démoin, c'est toujours pareil, hein. Si j'ai pris 600 mètres le Démoin d'un coup, c'est le maximum que j'ai pris. Et là, j'arrive aux Canaries, c'est vrai, en ayant un gros dénivelé négatif à faire avec des longues descentes où on prend moins 1005 sur la dernière descente. Donc, ouais, c'est vrai que l'hiver était optimal au niveau de l'entraînement, tout ce qu'on avait envie de mettre en place au niveau du travail hivernal, travail de vitesse, etc. Mais c'est sûr que l'hiver n'était pas optimal du fait où j'ai pas fait assez de dénivelés négatifs de montagne pour arriver vraiment sur une Transgran Canaria, du moins sur le marathon de la Transgran Canaria, en me disant voilà. Je vais bien encaisser le dénivelé négatif, il n'y a pas de raison. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu.
Ouais, je comprends. Ok.
Donc voilà.
Après, combien de temps t'as mis à comprendre vraiment ce qui t'arrivait? Parce que de ce que tu nous dis, la semaine après, tu fais une super semaine. Et finalement, donc là, on est le 5 mars, tu fais la Rocco des France. Tu comprends à ce moment-là que tu descends pas très bien, que c'est un peu bizarre. Le championnat, il est dans 14 jours. C'est quand où tu te dis, putain, il y a un truc qui cloche quand même.
Alors, quand est-ce que je me dis ça? Donc, bon, là, déjà, le samedi, j'ai les jambes fatiguées, comme je viens de le dire, sur la sortie de la Rocco du Trail Tour des France. Mais là, je ne m'alarme pas parce que pour moi, voilà, à ce stade-là, il faut savoir que je suis à peine une semaine après les Canaries. Et pour moi, c'est tout simplement que mon corps a eu du mal à récupérer, on va dire. Alors, du mal à récupérer, ce n'est pas qu'il a forcément du mal à récupérer, mais je sens qu'il a eu besoin de plus de temps pour récupérer qu'en temps normal. Donc là, je ne m'alarme pas. Hein, on sait que, voilà, on était sur une course en février. Prendre moins de 3 000 en février, moi, ça m'est jamais arrivé. De faire du moins une course comme ça, déjà typée montagne, en février, ça m'est jamais arrivé. Donc, on ne s'alarme pas là-dessus. Et puis, on n'a pas vraiment de gros signaux. Derrière, comme je disais auparavant dans l'interview, je fais une petite semaine vraiment light après ce dernier gros bloc des championnats de France, où je repars sur le même processus de récup, c'est-à-dire le lundi repos. Donc je termine le dimanche par une sortie de 35 bornes avec la Rocco du long, les 35 derniers kilomètres et que j'ai fait dont j'ai fait 25 appuyés, vraiment allure course. Et là derrière le lundi on fait repos, le mardi on repart faire un petit footing de 3 quarts d'heure à peine, vraiment. Et le mercredi on refait repos à nouveau. Et le jeudi il me semble que je fais du vélo ou quelque chose comme ça, je sais plus vraiment. Et en fait, le samedi de cette semaine-là, donc j'arrive à S-1 pratiquement de l'objectif. Et là, on remet un peu d'intensité. Mais très cool sur, j'ai une bêtise, 3 fois 2 minutes un peu appuyé en bosse avec 7 minutes de relance en haut. Et là, dès que je pars à l'entraînement, dès que j'ai vraiment des sensations très bizarres, et c'est là que j'ai vraiment ces sensations bizarres dans les quadris et toute la séance, dès que je remets du rythme en fait. Et c'est dès que j'ai remis de l'intensité et du rythme à une semaine des championnats de France que j'ai vraiment là eu de vraies alertes et que là mon corps m'a dit attention, enfin, et que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Mais c'est vraiment une semaine avant les France, pas avant quoi.
Et là, toi, t'es quand même un athlète de grande qualité, hein, en faisant troisième au Templier. T'es au Team Brooks. À ce moment-là, Mathieu Simon, il prend son téléphone, il appelle qui? Son entraîneur, son kiné. Qui est-ce qui peut te renseigner à ce moment-là?
Eh bien, alors à ce moment-là, la première chose que je fais, c'est que j'appelle mon entraîneur. Donc on en discute.
C'est qui d'ailleurs maintenant?
Alors c'est Nicolas Boyer qui m'entraîne
Ah
du
oui.
côté de Pau. Donc c'est l'entraîneur qui entraîne Maxime Cazajou depuis ses
Tu
débuts,
m'avais
tout
dit,
ça.
ouais.
Et du coup j'appelle Nico. C'est la première chose que je fais, bien évidemment. Et là on discute. Donc j'essaie de lui expliquer au mieux les sensations que j'ai eues. Donc on fait rapidement un petit point. Et voilà, là, je l'alerte sur le fait que les sensations que j'ai, c'est des sensations qui sont inconnues depuis que je cours. C'est-à-dire que c'est des sensations que j'ai jamais connues auparavant, d'avoir comme une espèce de sensation de perte de puissance en bosse, en fait, d'avoir les jambes. En fait, si tu veux, c'est pas vraiment une perte de puissance que j'avais, c'était surtout les jambes, les quadris qui chargent très, très vite. Je charge très vite au niveau des quadris et j'ai des jambes très lourdes, en fait. Et je fais 5 minutes de course à pied, c'est hallucinant. Je pars de chez moi, je fais 5 minutes de course à pied. Au bout de 2 minutes, sur le plat, ça se sent moins, mais dès que je prends une bosse, au bout de 5 minutes, c'est fini, quoi. J'ai l'impression que ça fait 70 bornes que je cours. Et donc voilà, donc là, on essaie de pas trop s'alarmer. On se repose. Le lendemain, il y avait à nouveau de l'intensité qui était prévue au programme. Donc on refait l'intensité. Et là. Sur l'intensité qui était un petit fartlek vraiment sorti à allure course, vraiment sur 1 heure et demie d'effort. Là, rebelote, quoi. C'est pareil, c'est à nouveau très poussif, des sensations de jambes lourdes. Je charge musculairement très très vite dans les montées. Et là, à partir de là, ben, là on comprend qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Et on essaie de
Là,
comprendre, en
il
fait.
est dépassé, non? Il t'oriente vers quoi, un médecin?
Alors là, on en discute, on discute avec, avec le médecin pour voir un petit peu. Le lendemain, on fait repos et là, on essaie de voir,
Ah, c'est
voilà,
là où tu as
de.
fait ta double prise de sang après?
Alors la double prise de sang, non, je l'ai faite après la double prise de sang. Là, j'ai fait, là, je l'ai pas faite là la prise de sang. Là, on avait déjà fait une prise de sang, on avait trouvé une carence en vitamine D. Donc là, je refais un point avec le
Ah
médecin.
oui, mais ça.
Ouais, mais voilà, qui expliquait pas vraiment le problème.
Il
Et le
t'avait fait
médecin
quoi en
m'avait
prise
dit.
de sang avec?
J'avais fait le fer.
Ouais.
Et voilà vraiment la prise de sang classique
Ah oui, t'avais
pour
rien
voir.
fait.
Ouais, non, j'ai pas fait quelque chose de très poussé parce que là, à ce
Je
moment-là.
t'enverrai des trucs de fou.
Ah ben je veux bien, non, mais là, on n'avait pas fait un truc très poussé parce qu'après aussi, on voulait pas s'alarmer. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de très alarmant, quoi. Ça faisait
Ouais.
que 2 jours que j'avais ces sensations pourries. Et
Oui, tu vas pas
on sait
retourner
très
le
bien que.
monde.
C'est ça, on sait que quand on finit à 15 jours d'un objectif, généralement, enfin à 15 jours d'un objectif, la semaine qui suit, on n'a pas des sensations vraiment très folles, on les a vraiment réellement qu'une semaine avant. Et là, du coup, on fait le lundi, donc on rentre sur la semaine de course, la semaine avant la course, on fait le lundi vraiment repos. Et le mardi, je repars faire 47 minutes de, voilà, 50 minutes de course à pied, et là, à nouveau, des sensations vraiment pourries. Le lendemain, je refais 1 heure avec un petit fartlek, je suis vraiment très poussif. Le jeudi, on refait 40 minutes. C'est pareil, je suis poussif comme pas possible. Et là, le vendredi, à 2 jours de la course, on décide de faire repos. Et puis voilà, et puis on essaie de voir au fur et à mesure des jours comment ça évolue avant les France. Et là, on prend une décision. Voilà, on s'était dit que le samedi, si j'avais vraiment des sensations pourries, eh ben, on réfléchirait à est-ce qu'on prend le départ ou pas. Et là, j'avais des sensations. Alors, les jambes légères, c'est qui était revenu entre guillemets, mais je pense que c'est plutôt psychologique le fait d'être là-bas sur place, d'avoir un espoir. Mais quand j'ai fait mes 5 minutes à I2 en footing de veille de course, j'ai vite compris que les sensations, elles étaient pourries. Dès que je me rentrais, dès que je commençais à accélérer un peu, même en étant sur un rythme ultra, enfin, ultra, on va dire, trail long, les sensations, elles étaient vraiment pourries. J'étais très, très, très poussif. Et. À la fin des 5 minutes, j'avais l'impression que j'avais fait 45 minutes comme ça, quoi. Donc, c'est là, on se dit que le lendemain, il n'y a pas d'espoir. On est là pour jouer. On verra ce qui va se passer le jour J. Et voilà, on espère un miracle. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de jour J. Et tout ce que j'ai eu depuis une semaine, tout ce qui m'a enquiquiné depuis une semaine, toutes les mauvaises sensations que j'ai eues, ces sensations-là en montée, ces sensations de coups de couteau, de douleurs musculaires en descente, etc., ben, tout s'est retrouvé le jour J, le jour des championnats de France. Et c'est pour ça qu'au bout de 45 km, j'ai pris la décision d'arrêter parce que c'était comme si j'avais 90 km dans les jambes, j'avais les cuisses vraiment tétanisées. Et voilà, et c'était très compliqué de comprendre. Et après, derrière, il y a eu une très, 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 très longue période, très compliquée. Parce que la semaine après les France, donc le lundi, j'ai fait un petit vélo de récup. On a fait 3 jours de repos d'affilée pour se laisser l'espoir que ça aide mon corps à bien récupérer. Et là, quand j'ai repris, ben, ça a été clairement la même chose. Donc, les sensations, c'était toujours pareil, exactement la même chose. Très poussif, jusqu'à la fin de semaine, ces 3 jours, du vendredi au dimanche. La semaine qui a suivi, on a tenté de reprendre une semaine normale. Donc, on a fait lundi repos, j'ai repris par du vélo 1 heure et demie le mardi, et ainsi de suite. Et là, on a vite compris que c'était exactement pareil. On a essayé de, même sur des footings, faire que des footings de 50 minutes, 1 heure. J'étais très poussif. Je me souviens même d'un mercredi, une semaine et demie après les France, où je fais un footing où je suis obligé d'arrêter. J'arrête au bout de 50 minutes. J'avais, enfin, non, même pas de. Non, non, je me trompe, pas de 50 minutes. J'arrête au bout de 20 minutes, si je me rappelle bien, parce que ben, voilà, je suis complètement mort. J'ai des sensations pourries. Et à partir de là, on contacte un médecin. Et c'est là que, du coup, le lendemain, le vendredi, on recontacte le médecin. Je vais faire. Une prise de sang à jeun au réveil. Je vais faire 1 heure de trail derrière l'après-midi, après ma journée de boulot. Et derrière, je refais une prise de sang en fin de journée pour voir l'évolution des CPK. Et là, on se rend compte que les CPK, elles évoluent pas tant que ça. Et là, à partir de
Donc
là,
c'est
eh
pas
ben,
ça.
donc c'est pas tout à fait ça. J'ai contracté en fait une rhabdomyolyse, mais cette rhabdomyolyse.
Alors, attends. Qui c'est qui sort le mot rhabdomyolyse là? Qui c'est quel professionnel de santé intervient à ce moment-là?
Alors, c'est mon médecin du sport, médecin interne
C'est
urgentiste.
celui qui t'avait fait les prises de sang?
Tout à fait. C'est celui qui m'a fait les
D'accord.
prises de sang, voilà, qui me diagnostique, enfin, qui comprend que j'ai dû faire, en fait, un début de rhabdomyolyse, mais le début de rhabdomyolyse, je l'ai fait après les Canaries. Et derrière, vu que j'ai pas levé le pied, eh ben ça c'est, on va dire pas aggravé, mais voilà, la rhabdomyolyse, elle n'est pas arrivée tout de suite. Le dénivelé, tout le dénivelé négatif que j'ai encaissé aux Canaries, ça n'a pas été un inconvénient tout de suite. Je l'ai pas vu tout de suite puisque je l'ai vu qu'une semaine avant les France. Mais en fait, quand je m'en suis rendu compte, c'était déjà trop tard. Et c'est pour ça que derrière, après les championnats de France, d'avoir remis une course, etc., je n'ai pas récupéré. Et c'est pour ça que là, on a pris la décision, 2 semaines après les France, de faire 10 jours de repos total d'affilée. Et là, j'ai fait 10 jours de repos total d'affilée. J'ai repris sur la semaine du 10 avril, donc mi-avril. Et là, on est reparti sur 2 semaines vraiment de reprise en douceur, crescendo, pour vraiment, vraiment bien reprendre et laisser tous ces petits problèmes derrière. Et au fur et à mesure, j'ai bien, bien repris, de mieux en mieux. Et voilà, j'ai retrouvé des bonnes sensations. J'ai commencé à pouvoir enchaîner à nouveau sans pépin physique. Et jusqu'à aller au Trail du Saint-Jacques, jusqu'à ce week-end, quoi, jusqu'au week-end dernier. Donc voilà un petit peu la période un peu compliquée, quoi. Et ça a continué, voilà, vraiment 15 jours après les France, où là, 15 jours après les France, il a fallu prendre la décision vraiment de faire 10 jours de repos total, quoi.
Ah, ok, ouais. Donc si on
Donc
devrait
j'ai eu un.
résumer
Ouais, si on peut résumer, voilà, j'ai eu un
comment c'est
gros mois et demi.
arrivé,
Voilà.
en fait,
C'est arrivé.
c'est
C'est ça.
un très très gros dénivelé négatif
C'est ça, tout
qui
à
t'a
fait.
causé des dommages musculaires très importants.
Avec des grosses inflammations musculaires.
Ouais, et derrière, toi, tu as réalisé, on va dire, 10 jours d'entraînement. Sur des courbatures énormes, t'avais
Alors
mal?
non, que le lendemain des Canaries, sur des courbatures
Oh, il y a
énormes.
eu le week-end après là. Oh.
Oui. Après il y a eu le week-end, mais les courbatures, elles ont disparu totalement. C'est-à-dire que la course,
Ah,
elle était le
d'accord.
voilà, la course était le vendredi des Canaries, et le lundi qui a suivi, j'en avais plus de cours, je n'avais plus de courbatures et de douleurs musculaires. Mais j'avais encore plein de lésions au niveau musculaire, au niveau des quadris, dues à cause du dénivelé négatif. Toutes ces lésions inflammatoires, elles y étaient encore. Et en fait, je pense que c'est tout simplement ce qui m'aurait peut-être permis de faire les championnats de France, et peut-être du moins de pouvoir faire un championnat de France comme j'aurais voulu le faire. C'est d'avoir eu ce problème entre les Canaries et le week-end à Millau, à 15 jours des France. Si j'avais eu là des alertes, on ne serait pas allé à Millau à 15 jours faire le week-end comme prévu. On aurait levé le pied et là, j'aurais eu derrière 15 jours, même pas 2 semaines et demie de récup. Et là, ça aurait été bon. Alors que le problème, c'est que le souci, il est arrivé une semaine avant les France. Et là, quoi qu'on veuille faire, c'était déjà trop tard. Le mal était déjà fait et là, c'était impossible. Même, on l'a vu, même en levant le pied, même en mettant des jours de repos. Ça n'a pas suffi, malheureusement, parce que le mal était déjà fait, tout
Ouais,
simplement. Et
t'avais trop entamé.
c'est ça. Il y a eu pas une surcharge d'entraînement, mais c'est parce que c'est tout ce que j'ai fait avant les Canaries et tout était très bien. J'ai pas eu des sensations de
Et
fatigue, de
oui.
rien du tout. Et je pense qu'il y a eu une surcharge liée à cette course qui m'a derrière provoqué, qui a provoqué voilà une grosse défaillance au niveau musculaire et qui, je pense, a fatigué aussi l'organisme. Avec le voyage, tout ça, et tout se cumule. Le fait de repartir aussi, faire un bloc à Millau, même pas, enfin, à peine une semaine après les Canaries, tout ça, voilà, je pense que c'était le trop, et tout le cumul derrière a fait que malheureusement, ben, j'ai pas récupéré du tout. Et quand en fait, j'ai voulu remettre de l'intensité à une semaine des France, que j'ai dit à mon corps, voilà, ben, après le week-end de Millau, on vient de faire une semaine light, là, ce week-end, à une semaine des France, on remet un peu d'intensité. Ben, c'est comme si mon corps il m'avait dit non, non, là c'est mort, moi je ne peux pas reprendre, c'est pas maintenant, c'est je ne suis pas prêt du tout. Et voilà, et forcément, une semaine ne suffit pas pour réparer tout ça. Et j'ai quand même fait 45 km sur le parcours des France, hein. J'ai quand même fait 4 heures et quelques d'efforts, il me semble, ouais, 4 heures et des bananes, en étant vraiment très poussif, en étant très fatigué, sur de la fatigue,
Oui,
etc.
parce qu'on ne te voyait pas du tout aux avant-postes.
Non, ben,
Je crois que tu
j'étais
n'as
j'étais
jamais été dans les 20 premiers, je crois.
Si, 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 si. J'étais dans le
Ah
top
bon?
10 encore au 35e. J'étais dans le top 10 à 2 minutes de la tête, 2 minutes 30.
Ok.
Mais après, ah ouais, j'étais même avec Patrick à Sravito. Et après, j'explose complètement.
Ah
Et
oui,
en
ah, lui
fait,
aussi après.
ben c'est ça. En fait, j'étais vraiment sur la corde. J'étais vraiment sur le fil du rasoir, du début jusqu'au 35e. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais plus à tenir. Au bout de 2 h 30 de course, 2 h 40, 2 h 30 de course, c'était plus possible. Je pouvais plus, c'était terminé, quoi. J'ai réussi à tenir 2 h 30 comme ça en étant poussif, avec des douleurs musculaires. Mais au bout d'un moment, ça tenait plus, c'était fini. Et là, ben, j'ai explosé complet. J'ai eu les jambes tétanisées. C'était compliqué de courir sur le plat, de relancer. Et là, ça a été 10 km vraiment d'enfer. Où au 35e, je me suis poussé, forcé à continuer. Et là, au 45e, j'ai arrêté parce que là, c'était plus possible. Je me faisais trop mal. Je subissais beaucoup, beaucoup trop. J'étais comme sur une fin de course d'un ultra de 80 bornes, 90 bornes, en étant vraiment très poussif et avec des sensations vraiment pourries. Et je ne pouvais pas continuer encore comme ça. C'était pas possible. Il y avait quelque chose de très problématique. Il y avait quelque chose et il fallait vraiment arrêter et là, vraiment se reposer et chercher vraiment le problème.
Ouais, ça tenait pas, quoi, ça tenait pas.
Non, ça tenait pas et voilà, ça faisait une semaine qu'on le savait. Maintenant, c'était comme ça, il fallait l'accepter et arrêter pour mieux repartir justement.
Oh. T'as perdu, mon petit Mathieu, là. Où il est passé? Allez, on va couper, on fera une petite partie. Alors Mathieu, juste avant que ça coupe, on finissait la question et moi je voulais te demander, juste avant qu'on en revienne à la compétition, si tu devais refaire une préparation, qu'est-ce que tu aurais modifié au final dans cette approche des France?
Ben, tout simplement, alors si je devais refaire une préparation, qu'est-ce que j'aurais modifié? Tout simplement la course des Canaries. Pourquoi? Alors la course des Canaries, parce qu'elle survient 3 semaines avant les France. Et dans tous les cas, on savait déjà que à 3 semaines des France, on prenait pas un risque, mais que il fallait derrière bien accepter de bien récupérer 2 3 jours parce que ça risquait de laisser un peu des traces au niveau musculaire à cause de la descente. Et après, bien évidemment, si je devais refaire une prépa, j'aurais envie de dire oui, bien évidemment, aller plus en montagne. Mais bon, moi, en habitant à 2 h 30 de la montagne, avec le travail et tout, c'est très compliqué de me rendre le week-end là-bas, du moins tous les week-ends. En plus, c'est un stade de l'année où on est dans l'hiver, on travaille vraiment la vitesse. En plus, les France, forcément, c'était un profil avec du dénivelé, mais assez roulant quand même dans l'ensemble, vraiment typé Templier, même encore plus roulant que les Templiers, à part sur la fin. Donc voilà, c'est vrai que je pense que s'il fallait changer quelque chose, c'est sûr, c'est annuler cette course des Canaries. Pourquoi pas faire un trail à 3 semaines des France? C'est pas tant ça le problème, mais pas les Canaries. Mais voilà, après les Canaries, moi, c'était une expérience pour moi. C'était le semi-trail, le rassemblement de Brooks annuel. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'être là pour le team. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux Canaries, de pouvoir découvrir cette île, aller faire la Transgran Canaria. Donc c'est vrai que voilà, l'un dans l'autre, on sait tout. Je me suis vraiment donné à fond pour aller aux Canaries. Mais on peut prendre l'exemple, par exemple, d'athlètes comme Nicolas Martin, pardon, qui ne jouait peut-être pas la sélection parce qu'il était déjà qualifié. Mais on prend l'exemple de Mathieu Delpech, qui est dans le même team que moi. Lui a pris la décision de ne pas aller aux Canaries avec Brooks parce que voilà, comme il me dit, l'an dernier, c'était parti une semaine. Là, c'était vraiment, on est parti que du mercredi au dimanche. Enfin, que du mercredi au dimanche, je veux dire, mais pas une semaine entière. Et l'avion, la fatigue, etc., à 3 semaines, voilà, il savait que ce n'était pas optimal. Mais moi, voilà, je venais d'arriver dans le team Brooks. Ça me tenait à cœur d'être présent sur ce sommet du trail, en sachant que la plupart des athlètes étaient présents. Et voilà, après, c'est sûr que j'aurais. Après, rien n'empêche d'aller là-bas. J'aurais peut-être pas dû faire le marathon. J'aurais peut-être dû faire que le 25 km. Et prendre moins de risques en faisant cette grosse course avec un gros dénivelé négatif, quoi. C'est surtout ça.
Ah, ok. Aujourd'hui, si tu reviens à l'entraînement et à la compétition, t'as passé quelle phase, t'as passé quel checkpoint un peu? Donc, tu vas nous parler du Saint-Jacques, mais je sais que t'avais fait une course de prépa avant.
Ouais, alors c'est ça, j'ai repris vraiment. Bon, ma semaine de reprise, après les 10 jours vraiment de coupure, j'ai eu la chance d'être en vacances cette semaine-là. Donc, c'était la semaine de Pâques où je suis allé en Ariège. Donc, j'ai fait une reprise en montagne. Et derrière, j'ai pas mal enchaîné. J'y suis revenu le week-end d'après. Donc, là, j'ai fait une semaine entière en montagne. Bon, pas faire des grosses sorties. La plus grosse, c'était vraiment 2 heures parce qu'on était sur une semaine de reprise. Après le petit souci que j'avais eu, vraiment à l'écoute du corps. Après, j'ai pas mal fait de montagne. Et j'ai fait une petite course de prépa, ouais, justement. Donc, je devais aller moi à Zegama, à 15 jours du Saint-Jacques, je devais, enfin, ou à 3 semaines, je devais aller sur Zegama. Donc voilà, j'ai pris la décision de pas aller à Zegama parce que, ben, forcément, la prépa, elle n'était pas du tout optimale. Quand on a une course comme Zegama qui a lieu le 14 mai, que ça me tenait à cœur d'arriver vraiment en forme là-bas, même si ce n'était pas un objectif, mais vraiment arriver en forme et voilà, et donner le meilleur de moi-même. C'est sûr qu'en ayant repris l'entraînement depuis le 11 avril, à peine un mois avant, après un mois et demi de galère, c'était pas possible pour moi d'aller à Zegama, de prendre le départ en n'étant pas du tout à 100% de mes capacités, en ayant repris l'intensité que depuis une semaine, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas fait du tout l'intensité pendant les 2 premières semaines de reprise, vraiment de l'endurance fondamentale. Donc voilà, Zegama s'est tombé à l'eau. Mais comme je préparais le trail du Saint-Jacques, il fallait essayer de trouver une course pas trop loin de la maison non plus. Et j'ai eu la chance de trouver une course dans le département du Lot, vraiment à côté de chez moi, à 1 heure et demie de route, avec un parcours vraiment, vraiment optimal pour le trail du Saint-Jacques, puisque c'était 42 km et 1300, un peu plus de 1300 mètres de dénivelé. Et voilà. Alors, pas avec une densité de coureurs, pas une grosse densité, même il n'y avait pas du tout de niveau, mais voilà, une course vraiment optimale. Pour le Saint-Jacques, pour voir un peu où j'en suis. Donc, pas vraiment de consigne particulière, hormis le fait de vraiment essayer de voir où j'en suis. Donc, moi, ça me tenait, voilà, c'était important pour moi de partir, on va dire, entre guillemets, pas fort, mais de partir quand même sur un rythme assez, assez élevé d'entrée pour voir vraiment où j'en suis, pour voir vraiment jusqu'où ça tient. Même si bien évidemment le rythme que j'avais endossé, c'était pas celui que j'allais retrouver le jour du Trail du Saint-Jacques, mais c'était voilà, histoire de voir vraiment où j'en étais sur une course de reprise.
Ok, ouais. Et donc là, tu nous as quand même décrit un sacré chemin de croix. Est-ce que tu as eu une peur, tu en parlais justement par rapport à ton sponsor où tu te dis, putain, les mecs, ils viennent me chercher après que j'ai fait un podium aux Templiers, ils me font un joli contrat, je crois que toi, tu es parti sur 3 ans. J'arrive au mon premier objectif, les France, paf, bec dans l'eau, blessé, je sais pas quand je vais revenir. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, putain, ils vont peut-être râler un peu là?
Alors franchement, ouais, alors c'est pas qu'on se pose des questions, mais forcément on a un petit peu, on se sent un peu gêné. Voilà, je me suis senti vraiment gêné par rapport au sponsor, mais après encore une fois, comme je dis, voilà, moi pour l'instant je travaille encore à plein temps avec malheureusement, enfin c'est comme ça, c'est le boulot qu'il veut,
Ah
des
ouais, t'as
horaires.
même pas d'aménage à un petit. Je croyais que t'avais libéré quelques jours quand même.
Ah non, du tout, j'ai rien du
Ah
tout.
ouais.
Et du coup, avec en plus un boulot en 3-8, avec des horaires de nuit, des horaires de matin ou des horaires d'après-midi. Alors même si je fais très peu de nuit, il faut savoir qu'une nuit, on commence à 21 h le soir, on finit à 5 h du matin et c'est une nuit
Oui,
vraiment
bah
blanche,
oui, une
un
nuit, c'est une
non-stop.
nuit, hein, ouais.
Et c'est ça, voilà, toute la semaine. Et après, avec quand même pas trop de semaines de nuit, même très très rarement, mais quand même des semaines de matin qui reviennent pratiquement une semaine sur deux, où là, c'est 5 jours d'affilée où on se lève à 4 h du matin. Donc c'est pas optimal du tout. Et je sais que dans tous les cas, alors, c'est pas que ça pouvait arriver, mais au bout d'un moment, je me dis, voilà, mais tu fais quand même, t'essaies de faire du sport de haut niveau, tu travailles en 37 heures à côté, à temps plein pendant toute la semaine, avec des horaires, voilà, de matin à des moments, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine des Canaries, voilà, faut savoir que moi, j'étais de matin, donc c'est un réveil à 4 heures, pendant 2 jours d'affilée, plus un réveil à 3 heures le jour de prendre l'avion, et tout ça avec une course dans 2 jours. Plus toute une journée à passer dans l'avion. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout optimal, mais ça, je le sais. Et c'est plutôt sur ça que je me suis appuyé. Je me suis dit, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Les blessures, elles arrivent. Ça arrive. Et je me suis dit, il vaut mieux que ça arrive maintenant, même si ça arrive avant les championnats de France et que c'est chiant, que après, en plein milieu de la saison, quoi. On va dire, à un mois et demi, 2 mois d'une CCC, où ben, une participation à la CCC peut être compromise derrière. Voilà, il valait mieux que ça arrive là, en début de saison, où j'ai encore le temps derrière de faire mes preuves, parce qu'on ne sait pas, par exemple, les France, j'aurais pu arriver super bien et ça aurait pu mal se passer, j'aurais pu faire une contre-performance aux France et derrière avoir ce problème que j'ai eu avant la CCC. Et dans ces cas-là, ben, c'est pas non plus, non, enfin, c'est pas vraiment, on va dire, un mois et demi où je passe à côté, mais c'est carrément pratiquement une moitié de saison. Alors que là, il faut pas oublier qu'aux Canaries, malgré tout, malgré la semaine de matin et tout, ça ne m'a pas empêché de faire une bonne performance. Même s'il faut savoir qu'aux Canaries, je ne suis pas arrivé à 100%, je suis arrivé en prépa des France. Hein. Donc aux Canaries, on ne pouvait pas non plus une semaine avant, le week-end avant, se dire on lève le pied. Non, on ne pouvait pas. À un mois des championnats de France, on ne pouvait pas non plus lever le pied. C'est là où j'étais en plein dans la période de charge d'entraînement. Donc voilà, il fallait accepter derrière d'arriver aux Canaries, pas reposé et frais à 100%. Et en plus, avec une semaine, avec des réveils vraiment très, 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 très tôt, quoi. Donc tout ça, je l'ai accepté. Je me suis dit que voilà, c'est alors pas normal, mais c'est compréhensible avec les horaires de travail, l'enchaînement un petit peu de tout, d'avoir eu malheureusement ben, un moment compliqué et d'avoir bâché au championnat de France. Donc
Ouais.
après, ouais, sur le moment, on se dit pour les sponsors, ça fait chier, mais voilà, il y a une discussion avec le manager est là pour nous encourager, pour nous motiver, et on sait très bien que la contre-performance ne sera pas une contrainte derrière dans le team. Donc dans la suite du team. Donc voilà, il y a vraiment une blessure, voilà, une blessure, une bêtise, une déchirure, 3 mois d'arrêt qui peut mais forcément être une contrainte pour le team, parce que pendant 3 mois, on ne pourra pas faire de course, etc. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. On a l'exemple de Mathieu Delpech pour le citer encore une fois, qui a été blessé toute la saison dernière, qui a eu des petits soucis, qui a eu une intervention chirurgicale, etc. Et c'est pas pour autant que Brooks n'a pas eu confiance en lui. Au contraire, voilà, ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'un athlète de haut niveau. Il y a des hauts, il y a des bas. Et j'ai envie de dire encore plus facilement quand à côté on travaille en plein temps et qu'on fait des horaires très compliqués, très variables, où le sommeil n'est pas du tout optimal, n'est pas réparateur. Voilà, encore plus dans mon cas, quoi.
Ah, tu devrais leur dire, il faut me payer plus si vous voulez que je sois régulier.
Non, 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 pas du tout. Non, mais pas, c'est. Je pense qu'aujourd'hui, oui, me payer plus. Enfin, oui et non. Je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est. Il faut faire un choix sur son travail. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est simple. Je vous le dis clairement. Hein, moi, je le dis clairement à tous ceux qui écoutent. Je te le dis clairement à toi, Hugo. Tu peux me donner 20 000 euros par an en plus de mon boulot. Je te garantis que je serai pas performant à 100%. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais un
Ah ouais?
boulot, tu travailles des nuits, tu travailles de matin, c'est
Ah
pas possible.
oui, j'ai compris. Ouais.
Enfin, au bout d'un moment, même si on te donne 20 000 euros à côté, le temps d'entraînement, c'est pas parce qu'on te donne 20 000 euros que tu vas avoir plus de temps de t'entraîner. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, quand je dois faire mes 8 heures de boulot, je suis obligé d'aller au travail, je suis obligé d'aller travailler. Donc, même si j'ai 20 000 euros de Brooks à côté par an, et là, je prends une grosse somme, mais même si j'ai, allez, 500 euros, 400 euros d'aide, de plus de Brooks par mois, c'est pas ça qui va me faire être plus performant, qui va me faire plus m'entraîner, loin de là, au contraire. Je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à trouver comme terrain d'entente, c'est de trouver un boulot, alors pas travailler, c'est sûr que c'est le truc optimal, mais du moins prendre un boulot à mi-temps. Et c'est sûr qu'après, si on prend un boulot à mi-temps, il faut derrière que le sponsor soit compréhensible et nous aide par un apport financier à avoir un petit soutien financier supplémentaire de la part du sponsor pour vivre aussi. Parce que c'est pas avec un mi-temps à 1 100 euros net par mois, je prends un exemple, 1 000 euros net par mois, qu'on vit, c'est pas possible. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une spirale où il faut qu'on s'entraîne comme un sportif de haut niveau. Moi, voilà, je le dis, tous les athlètes Brooks, les trois quarts, ils travaillent pas. Les trois quarts des athlètes Brooks. Je suis l'un des seuls, je pense, on les compte sur le doigt d'une main qui travaille à plein temps déjà. Après, ils ont quand même des travails à mi-temps dans l'ensemble. Ou sinon, les trois quarts, enfin, les deux tiers ne travaillent pas, de ce que j'ai pu comprendre, du moins dans la team Europe, les deux tiers ne travaillent pas. Mais aujourd'hui, les deux tiers ne travaillent pas, c'est pas parce qu'ils ont la chance de ne pas travailler, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont fait ce choix-là, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, si on veut être le meilleur, qu'on veut pratiquer vraiment au niveau, eh bien, il n'y a pas de choix. Il faut alors pas forcément ne pas travailler, parce qu'aujourd'hui, les sponsors, on n'a pas une rémunération qui est assez élevée pour pouvoir en vivre. Ça viendra peut-être dans quelques années, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais on est obligé du moins de prendre un boulot à mi-temps. Et je pense que dans un premier temps, prendre un boulot à mi-temps, c'est une énorme chance et je pense ce qu'on doit faire pour vouloir performer. Et comme je dis ouais, comme je dis souvent, performer, mais avant tout, s'entraîner avant de performer, c'est avoir plus de temps de s'entraîner pour s'entraîner et aussi avoir plus de temps. Moi, je le vois aussi comme une chance pour avoir plus de temps pour profiter pleinement des avantages qu'un sponsor va nous donner. Je prends l'exemple, par exemple, du mois d'août cette année où, grâce au sponsor Brooks, on a la chance de pouvoir avoir un chalet pour pouvoir aller nous entraîner pendant un mois à Valorcine, dans la vallée de Chamonix. Mais
Ah ouais?
personnellement, quelqu'un qui.
Putain, les
Ah oui.
cochons.
Ouais, voilà. Donc, c'est une chance énorme que le sponsor nous offre. Mais personnellement, quelqu'un qui travaille à plein temps ne va pas pouvoir poser un mois de vacances comme ça. Donc, là, par exemple, moi, mon contrat, il s'arrête le 30 juin et je ne l'ai pas renouvelé dans l'entreprise où je travaille actuellement. Mais Bon, moi, si j'avais continué, j'avais la chance d'avoir tout le mois d'août de vacances dans mon entreprise. C'est comme ça chaque année. Mais quelqu'un qui travaille à plein temps, etc., ne peut pas, là, par exemple, partir pendant tout un mois avec Brooks s'entraîner. Alors que les athlètes en parallèle qui ne travaillent pas du team, eux, peuvent aller s'entraîner. Et là, c'est vrai que quelqu'un qui travaille à plein temps à côté de quelqu'un qui ne travaille pas et qui a le temps de faire que ça, qui va s'entraîner un mois à Chamonix, c'est clair et net que le gars qui va s'entraîner à Chamonix pendant un mois, mais plus de chances de son côté d'être performant à la CCC que quelqu'un qui va travailler à plein temps. Et encore plus quelqu'un comme moi qui habite pas du tout en montagne, qui habite à 2 heures et demie de la montagne. Donc voilà, c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas pour dire que moi, j'ai plus de difficultés qu'un autre, pas du tout, puisque j'arrête mon contrat le 30 juin et j'ai pris la décision de pas accepter le CDI parce que je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Si je veux être performant, il faut que je fasse des choix. Demain,
Ah ouais,
voilà,
ça allait être ma question, ça.
Eh bien, c'est ça, voilà, j'arrête le boulot et je compte déménager dans les Pyrénées-sur-Pau courant de l'année prochaine. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le choix. Si je veux être le meilleur possible, il faut que je m'entraîne en montagne. Et quand je vais reprendre le boulot là, mon objectif, c'est de trouver un boulot à mi-temps. Parce qu'un plein temps, c'est pas possible. Ça ne me dégage pas assez de temps pour m'entraîner, du moins pour l'instant, en étant à 2 heures et demie des montagnes. Parce que c'est pas en allant faire un week-end par-ci en montagne que je suis. Que je pourrais être performant pour une course comme la CCC qui demande à être en altitude pendant un moment, qui est vraiment typée montagne, et je le vois clairement. Quand je fais une course après vraiment typée montagne, je ramasse parce que ben, j'ai pas l'habitude de m'entraîner en altitude et tout ça. Et voilà, c'est des petits trucs aujourd'hui sur lesquels je dois m'appuyer, sur lesquels j'ai dû faire des choix. Mais voilà, mais pour rebondir sur cette défaillance des France, c'est. Voilà, je rebondis vraiment très rapidement en me disant, ben ouais, le sponsor, c'est peut-être, ça me gêne par rapport au sponsor, mais au bout d'un moment, je me dis, voilà, Mathieu, tu as un travail à plein temps, tu n'habites pas en montagne, tu n'es pas parti beaucoup faire dénivelé avant les France. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas vouloir autant que quelqu'un qui ne fait que ça, qui habite en montagne. Voilà, par contre, c'est vrai qu'en contrepartie, si pendant ces 4 mois qui ont précédé les France, je n'avais pas travaillé, j'avais mis vraiment tout à cœur ma préparation, j'avais fait vraiment tout pour être le plus performant en France, et là, je me ramasse. Là, ouais, ça m'aurait fait chier. Là, je l'aurais vu différemment parce que je me dis, putain, merde, tu fais tout pour être performant, tu travailles plus, tu mets tout en œuvre pour faire que ça. Et là, tu te ramasses. Là, voilà, ça m'aurait fait davantage, ça m'aurait fait chier. Je me suis dit, putain, merde, quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais là, pas du tout, franchement, pas du tout.
Ouais, j'ai un peu le même sentiment que toi à des moments de l'année.
Ouais, mais c'est ça. On a des moments, voilà, c'est sûr que là maintenant, là j'arrête mon contrat fin juin, donc ça veut dire que je vais avoir tout le mois de juillet, tout le mois d'août pour vraiment me préparer à la CCC. C'est sûr que j'ai 2 gros mois pour préparer la CCC à fond. Là en juillet, je vais aller très énormément en Ariège, dans les Pyrénées. Après le mois d'août, les 15 premiers jours, ça va être vraiment un stage purement alpin du 5 au 15, où je vais aller pratiquement 15 jours là-bas sur place. Donc je vais mettre tout en œuvre. Donc là, c'est vrai que si à côté de la CCC, le jour de la CCC, ça ne se passe pas bien. Et qu'il y a une petite défaillance, là, les choses, on les voit différemment. Je vais me dire, putain, merde, j'ai mis quand même 2 mois.
Mais quand tu dis que tu t'acceptes pas le CDI, c'est tu t'en fous parce que tu sais que tu peux retrouver le même dans 4 mois. C'est pas un métier de comment on dit que t'as mis que t'as eu des difficultés à obtenir.
Alors, ouais, voilà, c'est pas un boulot que j'ai eu forcément les difficultés à obtenir. Je suis rentré sur un CDD pendant un an et demi, mais
Sans
c'est
dire que c'est
surtout
un
que.
métier alimentaire, mais c'est un truc voilà, tu sais que sur le marché, il y a d'autres offres similaires, quoi.
Alors voilà, sur le marché, il y a d'autres offres similaires, mais c'est surtout que moi, au bout d'un moment, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai dû faire un choix. C'est-à-dire que j'ai fait une troisième place au Templiers que je ne pensais pas faire là maintenant à ce stade de ma vie, du moins maintenant. Je me suis retrouvé à négocier des contrats avec des marques, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et je me retrouve à le 2 décembre, je m'en rappelle, à devoir accepter oui ou non un CDI, alors que mon contrat en CDD se finissait fin juin. Donc on me propose 6 mois avant. Un CDI dans une grosse entreprise. Et là, ben forcément, je me dis, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Et à côté, j'avais déjà eu une approche de Brooks. Donc là, j'ai appelé le manager, on a discuté et forcément, on s'est mis d'accord sur un terrain d'entente. On a trouvé un terrain d'entente pour. Voilà, je lui ai dit, moi, je dois accepter un CDI, oui ou non, je ne sais pas. Je me retrouve à devoir négocier voilà, un CDI. Donc voilà, c'est compliqué et j'ai dû négocier un peu tout ça, réfléchir au pour et le contre. Et moi, dans tous les cas, c'était déjà sûr que je voulais vraiment me consacrer qu'au trail parce que voilà, j'avais fait une troisième place au Templiers et je savais que déjà le boulot n'était pas, les heures de travail n'étaient pas optimales pour être performant. Je savais aussi que dans le futur, il allait falloir vraiment que je déménage et que je me rapproche des montagnes. Donc, j'ai envie de dire que Brooks ou pas Brooks, le choix de refuser le CDI, voilà, ça allait se faire vraiment, ça, parce que c'était compliqué pour moi de l'accepter dans la mesure où les horaires n'étaient pas vraiment en adéquation avec mon sport de haut niveau, avec mon projet personnel et sportif de déménager dans quelques mois après. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que un CDI dans cette entreprise, c'est compliqué à avoir. Mais par contre, un CDI dans une entreprise similaire, ça peut se trouver au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas demain, dans le futur, ce que je vais rechercher.
Oui, on a bien compris. Alors, merci Mathieu pour toutes ces belles précisions. Alors, on va finir sur une note positive, puisque aujourd'hui, tout ça, c'est derrière toi. Tu viens de remporter le trail du Saint-Jacques devant deux coureurs assez rapides qui viennent d'Auvergne. Tu les connaissais pas forcément.
Un petit peu, oui.
Et voilà, donc tu as fait du 10 de moyenne ou pas, Mathieu, là, dans cette.
Presque 10 et demi, ouais, ça fait.
Ah ouais, c'était au-dessus de 10. Ouais. Trail du Saint-Jacques, bon, c'est une course by UTMB, ça te donne le ticket pour la CCC. Voilà, ça te met un petit peu sous les feux des projecteurs quand même. C'est une belle victoire, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Est-ce que c'est un peu la délivrance? Parce que finalement, ton dernier grand moment d'euphorie, même si tu as kiffé les Canaries, c'était au Templier en octobre en fait.
Ouais, ben c'est ça, tout à fait. C'était vraiment mon dernier moment d'euphorie, de grosse course. Donc là, ouais, le Trail du Saint-Jacques, vraiment une super course qui me tenait à cœur. Alors bon, pas avec une densité, on va dire, au niveau international, ni du gros niveau national au départ. Mais voilà, c'est une course qui me tenait à cœur parce que déjà, c'était la première fois que mon grand-père venait me suivre sur une course. Donc
Ah
il y avait
ouais.
voilà, il y avait mon père qui était présent, ma compagne aussi, comme bien souvent sur les courses. Et voilà, moi, l'objectif vraiment sur cette course, en étant le favori, c'était vraiment d'aller chercher la victoire, de vraiment de gagner, peu importe la manière, peu importe le chrono. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, les sensations n'étaient pas vraiment très, très folles. On va dire que ce n'était pas des sensations d'avant-templier, de par le fait aussi que ça faisait un mois et demi que j'avais repris l'entraînement. Donc, faut pas non plus voilà, se dire, oh là là, j'ai pas les jambes de fou, c'est bizarre. Non, 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 c'est tout à fait normal. J'avais fait 15 jours avant un gros séjour en Ariège de 4 jours où j'ai fait, je crois, 130 bornes en 4 jours de sport, 20 heures pratiquement. Donc voilà, d'un coup comme ça sur 4 jours de l'ascension. Donc je veux dire, j'avais pas les 15 jours derrière des sensations très folles, mais j'étais bien, j'étais très bien. Mais j'avais pas les jambes très légères, mais je me sentais pas poussif ni quoi que ce soit. Donc je prends le départ vraiment serein. Mais voilà, en étant un gros diesel en ce moment, donc du coup, je me dis qu'il faut pas trop s'exciter, partir fort. Comme je me dis, il faut que je sois intelligent, comme j'essaie de l'être le plus souvent possible sur mes courses. Je me dis, voilà, tu es outsider, c'est toi le favori, donc t'as rien à montrer. On sait que c'est toi le favori, donc ça sert à rien de partir comme un idiot, de montrer que c'est toi le plus fort aujourd'hui. On s'en fout, pour l'instant, sur le papier, c'est toi le plus fort aujourd'hui. Normalement, si tu fais bien ta course, que tu fais pas le con, que ça se passe bien pour toi, tu devrais jouer devant. Donc voilà, donc je prends pas, franchement, j'ai pas, je suis serein au départ, je ne mets pas la pression, si ce n'est quand même le fait de devoir aller chercher à minima un podium pour avoir le ticket pour la CCC, en sachant que derrière la deuxième course que je choisis pour la qualif, c'est le Val d'Aran sur le 50 km, où je sais qu'il faut faire un top 10 sur une course qui est très relevée, puisque ça va être la finale des Europes. Donc je me dis, un podium, c'est plus compliqué à aller chercher qu'un top 10, mais là, dans ces circonstances-là, non. Parce que c'est plus dur d'aller chercher un top 10 sur un Val d'Aran qu'un top 3 sur le Saint-Jacques au vu de la start list de départ. Donc je pars assez vite, enfin assez vite, on va dire avec un petit rythme que je m'impose. Je fais pas trop attention aux gars qui me suivent, aux gars qui sont avec moi. Les consignes, c'était perso, d'imposer mon rythme d'entrée, qui pour moi est un rythme. De trail sur trail long, vraiment sur format 70-80, sans partir trop fort et de voir qu'est-ce que ça dit. Donc, si un mec accélère, si Clément Christen, qui était vraiment le deuxième gros favori, accélère, ben, forcément, va me cherche à me dépasser, je le suis. Si je vois que quelqu'un accélère, nous double, essaye de prendre un peu la tête et que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est pas, où j'ai pas vraiment beaucoup de raisons de m'inquiéter, je me dis, bon, ben, tu le laisses partir. Tu le laisses prendre 30 secondes et dans tous les cas, le mec, au bout de quand il aura pris 30-40 secondes, il va se retourner, il va voir que ça ne suit pas, il va indirectement un petit peu ralentir et je le reprendrai plus tard. C'était vraiment ce que je m'étais dit. Donc je pars quand même assez avec un bon petit rythme quand même. Et là, donc très vite sur un parcours qui est très boueux, très casse-pattes et très très sauvage d'entrée. Donc c'est-à-dire très sauvage, on prend des petites monotraces très boueuses où ça glisse pas mal. Sur le parcours du 125 également, donc on rattrape quand même pas mal de monde de l'ultra qui nous laisse passer. Donc là-dessus, la cohésion se passe très très bien. Les gars sont compréhensibles, ils nous laissent passer. Donc moi, je suis suivi de Clément Christen et de deux, trois autres coureurs. Et très vite, on arrive au kilomètre 8, donc au premier ravito, qui là, malheureusement, pourquoi je dis malheureusement, vous allez comprendre après, était le lieu de départ du Maratrail, qui part en deux vagues, comme nous, en fait. Donc deux vagues de 800 coureurs. Et là, je traverse une grande rue, une grande avenue, où je vois les derniers de la deuxième vague du marathon qui sont en train de prendre, enfin, qui viennent de prendre leur départ.
Ah
Et nous,
merde!
on part à la perpendiculaire de cette rue pour regagner notre ravitaillement. Et là, je ressors du ravito au 8e kilomètre. J'arrive alors sur un très gros rythme. J'avais fait le choix, puisqu'il y avait un ravito avec l'assistante autorisée au kilomètre 8 et kilomètre 16, de prendre toute mon hydratation, soit 1 litre jusqu'au kilomètre 16, donc de ne pas m'arrêter, de juste attraper une compote que mon père m'a donnée, que j'ai d'ailleurs mangée sur place au ravito en courant, et de ne pas m'arrêter pour ne pas perdre de temps. Et là, je ressors du ravito, je rentre dans une rue, et je comprends alors à ce moment-là que ça va être un enfer. Pourquoi? Parce que je vois rentrer sur le single les derniers du Maratrail.
Oh
Donc là, je
putain.
comprends que ça va être un long chemin de croix, et ça l'a été. Donc, on a passé 8 km d'enfer à devoir doubler les mecs sur les monotraces, à devoir subir plusieurs bouchons,
Ah ouais, là,
parce que
ils ont merdé, là, l'organisation.
là, l'organisation a malheureusement énormément merdé, parce qu'on s'est retrouvé.
Ils y arrivent pas trop sur les horaires de course, parce que l'an passé, ils nous avaient coupé le 125 km en deux vagues en nous disant, vous inquiétez pas, vous les rattraperez plus tard. On les a rattrapés au bout de 20 bornes et ça a duré 50 km pour les doubler, donc.
Donc voilà, donc l'horreur, sachant que nous, on est parti un quart d'heure en retard, la première vague, et le marathon, donc nous, on est parti à 8h, donc à 8h15, un quart d'heure en retard, et le marathon devait partir à 8h30, et il est bien parti à 8h30.
Ah ouais, ah oui, c'est là où il y a le souci alors.
Donc c'est là qu'il y a eu le souci, et la deuxième vague à 8h45, et moi, je suis rentré au 8e kilomètre au premier ravito en 47 minutes, donc soit 3 minutes après le départ. Et là où il y a eu le gros souci, c'est que vu que le quart d'heure que nous, on a perdu, eux, l'ont pas perdu. Du coup, ces coureurs-là, on les avait entre le kilomètre 8 et le kilomètre 16, ceux du marathon. Donc sur cette portion-là, on avait les coureurs du marathon. Ce qui c'est le problème, c'est que vu qu'eux, ils sont partis à l'heure, eh ben, en fait, ils sont partis ben, forcément très tôt. Ça faisait pas longtemps que même que la première vague était partie. Et voilà, forcément, le milieu de peloton de la première vague sont déjà des coureurs qui, forcément, n'ont pas des grosses quantités. Ça n'avance pas forcément très très vite. Et on va dire que je dis une bêtise. Le milieu de peloton, allez, le 200e coureur de la première vague était peut-être qu'à 4 km du départ, à peine 3 km du départ. Ça faisait à peine 3 km qu'il était parti quand moi je suis arrivé dans les rues de leur village, de leur lieu de départ. Donc ce qui fait que derrière, je me suis retrouvé à devoir doubler beaucoup de monde de la deuxième vague et commencer à doubler du monde de la première vague. Et ça pendant 8 km. Sur des chemins qui étaient sur du monotrace, où à gauche on était dans des sous-bois, c'était un peu le dévers avec de l'herbe très très haute, à droite de l'herbe haute, des talus avec des orties. Donc pour doubler les mecs, c'était impossible. Donc il fallait qu'ils se poussent, qu'ils s'arrêtent en fait pour me laisser passer. À des moments, il y avait des bouchons. Donc en fait, là, j'ai laissé une énergie folle à doubler les mecs, même si forcément j'accélérais pas. Mais dès que j'avais une portion en fait où il y avait 5-6 types, que ça bouchonnait, que je voyais que je pouvais passer sur le talus, ben je passais sur le talus pour doubler 4-5 types d'un coup. Et ça, non-stop en fait. Et dans les descentes, c'était encore pire parce que les descentes, elles étaient boueuses, ça glissait, donc les gens, ils ralentissaient. Moi, le problème, c'est qu'il y avait des moments sur les monotraces, eh ben, il y avait, comment expliquer, eh ben, un micro-passage en fait où si on passait à gauche, on passait dans une ornière. Donc tout le monde passait à droite, donc moi, ben, forcément, j'attendais mon tour parce que j'allais pas passer dans l'ornière et me foutre de la boue partout. Donc c'était vraiment l'horreur. Et là, pendant 8 bornes, j'ai laissé vraiment beaucoup de jus. Et au kilomètre 16, deuxième ravito, c'est là qu'on a laissé partir du coup les gars du marathon sur leur parcours. Et nous, on a repris notre parcours.
Ah oui.
Voilà. Et là, on a repris notre parcours avec juste ceux de l'ultra. Et là, bon, ben, ça a été jusqu'au kilomètre.
Et tes poursuivants, ils ont fait quoi? Ils sont restés derrière toi ou
Alors
ils ont
non.
lâché? Ils s'en sont mieux sortis?
Non, alors au kilomètre 16. Clément Christen est à 2 minutes à peu près de moi, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 même peut-être.
Lâché.
Et là, on prend une grosse, grosse montée. Alors moi, déjà, ça, faut savoir que ça commence à relancer, ça relance un peu et ça redescend après le kilomètre 16. Donc là, j'ai fait le choix stratégique de mettre une petite accélération en descente et d'essayer de relancer un peu fort sur le plat pour aller grappiller encore des secondes. Parce que je me suis dit, si moi, j'ai réussi à doubler les gens de telle façon, si Clément a galéré un peu plus que moi, il va être encore un peu dans le peloton. Donc, il faut que j'essaie d'aller chercher, d'en profiter. Voilà, c'est stratégique de jouer sur ça pour essayer d'aller chercher du temps. Et du coup, en fait, on prend après une grosse, grosse, grosse montée où là, ben, je monte. Bon, j'essaie de monter fort, mais bon, bien évidemment, en marchant parce qu'on prend des pourcentages à 40%, entre 30 et 40% dans un sous-bois, vraiment, on s'attire vraiment tout droit, en fait. Et là-haut, ça relance un peu et ça redescend. Et là, aïe, 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 on va dire deuxième descente, mais deuxième vraie, vraie grosse descente parce qu'on prend, je crois, moins 1 400 d'un coup. Et là, j'ai des cuisses qui commencent. Je sens que je commence à avoir du mal à encaisser la descente. Donc là, tiens, je commence à me poser un peu des questions. Et là, j'ai Clément qui, lui, est un très gros descendeur, descend très fort et arrive à revenir sur moi. Donc à hauteur de Aileras, il revient sur moi. Donc là, en bas de la descente. Donc on va dire sur le dernier tiers de la descente, je me force à le suivre, à rester avec lui, ce qui fait que du coup, ça hausse mon rythme. Le rythme que j'avais les 2 tiers de la descente juste avant qu'il me double, était bien moins rapide, était un peu moins rapide que là. Donc je me force à le suivre. Donc voilà, donc je le suis sur le plat, sur le plat en bas, on relance assez fort. Et là, au 30e kilomètre au ravito, on arrive ensemble. Et là, je suis vraiment pas bien. C'est-à-dire que c'est très compliqué au 30e. Là, j'ai vraiment des jambes pas fous. J'ai pas de très bonnes sensations. Je me sens très poussif. Donc là, je pense que c'est tout simplement toute l'énergie que j'ai laissée du 8e au 16e qui est en train de me jouer les tours maintenant. Du fait que j'avais prévu de partir sur des bases de 50 grammes de glucides par heure sur les 2 premières heures, sachant
Oui,
que
c'est
le
pas
kilomètre.
beaucoup, ça, Mathieu.
Et ouais, c'est pas beaucoup. Et du coup, sur la première heure, j'étais sur 50 grammes. Sur la deuxième, j'étais sur 70 grammes. Sauf que je pensais pas laisser autant d'énergie. Je pensais pas que j'allais devoir laisser autant d'énergie entre le kilomètre 8 et 16 à doubler des gens. Et du coup, forcément, là, j'ai pas compensé correctement cette perte d'énergie. Et ce qui fait que j'ai commencé à ramasser, on va dire, au kilomètre 30. Et là, ça a été vraiment très dur. Je suis reparti avec Clément. Je me suis forcé à le suivre jusqu'au kilomètre 43. Donc, on a fait ouais, entre 10 et 13 bornes ensemble. Et là, au bout de 13 bornes, il est parti sur un faux plat montant, enfin, même sur plutôt du plat. Et il a essayé de mettre une petite accélération que j'ai pas réussi à suivre, donc je l'ai laissé partir. Et là, ça a été très très long, jusqu'au kilomètre 45, quelque chose comme ça, où on arrive au lac. On arrivait, ouais, au niveau d'un lac, le lac du Boucher. Et là, ça a été, ouais, très compliqué. Il y a que en haut du lac, on prend une petite descente, on commence vraiment à vraiment redescendre. Et là, sur la redescente, sur l'excentrique, ça allait mieux. J'avais l'impression d'avoir des bonnes jambes. Donc je me dis, putain, dans les descentes, ça va. Et en fait, en bas sur le plat, mon père m'attendait. Là, de voir mon père, ça m'a fait du bien. Je me suis forcé à relancer et tout. Donc là, Clément, il faut savoir qu'il avait déjà pris 4 minutes 30 sur moi. Donc c'est énorme sur 5 bornes. Donc après, sur les 5 bornes auparavant, je me suis retrouvé à marcher pendant 1 minute sur le plat pour essayer de le récupérer parce que j'avais les jambes qui commençaient à être tétanisées. Donc là, j'ai eu très peur. J'ai commencé à avoir les jambes un peu comme en France. Je me dis, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, après, on a commencé à remonter avec de très, 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 très forts pourcentages pour aller prendre le point le plus haut du parcours à 1 400 mètres. Et là, dans la montée, ça allait. Bon, forcément, j'étais encore sur ma dynamique où j'avais relancé depuis le lac du Boucher, où je m'étais dit, mais non, t'arrêtes ton carnaval. Je me suis vraiment dit ça dans ma tête. Je me suis dit, t'arrêtes ton carnaval, t'arrêtes ton cirque et tu relances, quoi. Tu t'as mal aux jambes, mais on s'en fout. Ça fait 50 bandes que tu cours, maintenant t'as mal aux jambes, c'est comme ça. On cherche pas, on réfléchit pas, on n'en a rien à foutre, t'es deuxième, derrière, le mec il est peut-être qu'à 1 minute, 1 minute 30, il faut te bouger le cul, quoi. Voilà, donc je me suis vraiment parlé comme ça, de cette manière-là, et arrivé en haut de la bosse à 1 400 mètres, j'ai attaqué la descente, et je me suis dit, voilà, maintenant il reste plus de 25 bornes, tu te bouges le cul. Donc là, j'ai descendu bien comme il faut, j'arrive au panneau où on m'annonce 25 km restants. Donc là, je ne l'avais pas trop fait jusqu'auparavant, mais là, je commence un petit peu à le faire en doublant des mecs de l'Ultra. Alors, poser la question de savoir où est-ce qu'est le premier. Et il y en a un qui me dit, il est. Alors, juste avant, un mec me dit, il est à 2 minutes. Donc, je continue de courir, les kilomètres défilent. Et là, je croise un jeune qui fait de l'ultra et je me dis, t'es, je vais lui demander, voilà, c'est le moment, c'est à lui que je vais demander à combien est le premier. Et il me dit 500 mètres. Alors là, je marque un temps d'arrêt dans ma tête, je me dis, oulala, 500 mètres.
Elle est
Alors je me dis,
explosée.
bon, je me dis, putain, le mec est parti hier soir à 23 h pour son ultra. Ça fait, je me dis en rigolant, plus de 15 heures qu'il court. Enfin non, plus de 12 heures qu'il court. Bon, il doit plus être trop lucide. Je pense qu'il a plus trop la notion du temps et de la distance. Ça m'étonnerait que Clément soit à 500 mètres. Et du coup, là, indirectement, je m'arrête pas forcément que sur ça et je me dis, ouais, mais en fait, peut-être qu'il est à 500 mètres et peut-être que le mec, il a raison. Donc, je me dis, tu vas accélérer, t'es bien en descente, t'accélères. Et en fait, j'accélère et indirectement, j'étais en train de revenir sur lui et de reboucher le trou depuis que je m'étais mis ben, forcément sur un bon rythme, depuis que j'avais relancé depuis le lac du Boucher, depuis ces 10 km où j'avais relancé. Et ben, en fait, ben, si tu veux, je m'étais mis à revenir dessus. Et là, on arrive sur une longue portion de 6-7 bornes de relance où c'est vraiment que du plat, où celle-là je l'avais, alors je l'avais pas reconnue, mais sur le parcours on voyait par rapport au dénivelé négatif qu'on perdait sur les 25 derniers kilomètres, on savait qu'à un moment donné au vu de la distance et du dénivelé négatif qu'on perdait, qu'il allait avoir une portion très roulante et du coup ben là il y a une portion très roulante et j'arrivais à bien relancer entre on va dire 13 et 14 avec des jambes très très dures, mal aux jambes, mais j'arrivais à relancer quand même malgré tout. Et c'est là que voilà, tout le travail fourni avant l'entraînement, tout l'hiver, etc., c'est là que ça payait. Et j'arrivais à tenir un pénible 13 à l'heure, aller chercher quand même 14 à des moments, et osciller entre voilà, 13 et 14. Et petit à petit, je suis revenu sur Clément, et j'ai vu Clément qui marchait, les mains sur la tête, et du coup, qui a eu un gros problème en fait au diaphragme apparemment. Ça lui arrive au bout de 4 heures d'effort, qui a eu des spasmes au diaphragme. Et donc voilà, donc à ce moment-là, je reviens à sa hauteur, je lui propose de me suivre et je ralentis, j'attends un petit peu 30 secondes en me ralentissant, je me retourne, je regarde un peu comment il réagit, je lui redis, allez, viens avec moi, viens. Et je vois qu'il essaie de retrottiner. Et là, à ce moment-là, je me retourne, je regarde devant moi, je me concentre sur ma course et je me retourne au bout d'une minute et je vois qu'il ne suit pas. Donc je me dis, ben voilà, bon, il a craqué, ça fait chier pour lui, mais voilà, c'est comme ça, c'est le fait de course. Et là, à ce moment-là, je me dis, ben écoute, derrière, c'est peut-être très loin, mais c'est peut-être à côté. Bon, je savais que c'était très loin parce que Clément, au moment où je double, me dit que derrière, c'était à 5 minutes de nous au dernier ravito. Donc, je me dis, au vu des sensations que j'ai, au vu des 10 kilomètres, des 10 grosses, ouais, des 15 kilomètres que je viens de faire, où j'ai quand même bien relancé vraiment sur des allures que je connais, qui sont vraiment à mon niveau, je me dis, bon, ça m'étonnerait que le mec, quand même, ait couru comme moi. Donc, je pense qu'il doit y avoir encore 5 minutes, voire plus. Donc, je me dis, écoute, ta première place, si tu fais pas le con, elle n'est pas jouée parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais franchement, elle est vraiment presque acquise. Mais je me suis dit, par contre, ce n'est pas pour autant qu'on va lever le pied. Donc, voilà, j'ai vraiment fini jusqu'à la ligne d'arrivée sur ce rythme-là, en sachant que dans les 10 derniers kilomètres, on récupérait les gars du Maratrail, donc les derniers du Maratrail, tous ceux qui faisaient la rando. Donc, là aussi, il y a eu des passages compliqué pour doubler des mecs où j'ai perdu un peu de temps, notamment sur les chibottes ou les chabottes, je sais, les chibottes à la fin du
Chibotte,
parcours.
chibotte.
C'est ça, ouais. Les chibottes qui est une espèce de parcours, en fait, un petit peu
C'est
de très, très,
infernal.
ouais, un parcours infernal, voilà, tout à fait, où c'est des sentiers vraiment très escarpés avec des gros pierriers, des pierres, où il y a limite de l'escalade à faire à des moments où il faut poser un petit peu les mains à la fin où il y a une corde. Et là, on se retrouve dans ce passage-là à devoir doubler des gens de la randonnée, etc. Donc là, j'ai perdu encore un petit peu de temps. Ça a été bon, un peu compliqué. Il y a une dernière descente sur le Puy-en-Velay où quand on entame la descente, ben toi, Hugo, je pense que le parcours était sûrement le même. Il y a une descente dangereuse avec des
Ah
grosses
bon?
marches. Ouais, ben là, ben alors peut-être que tu l'avais pas, mais
Non,
nous, on avait
nous on
ça.
était descendus sur une route.
Et ben ouais, non, du coup, nous, le début, en fait, on descend, on court dans un pré. Quand vraiment on arrive en haut des chibottes, après on commence à relancer en haut sur du plat. On chope une route, etc. Et là, on arrive pour ben justement, notamment pour choper cette descente du Puy-en-Velay qui est sur la route. Et ben juste avant, toute la portion de descente, elle est dans une descente très technique avec des marches où il faut enjamber et tout. Et là, forcément, bon, voilà, il y avait des petites mamies qui faisaient la randonnée. À un moment donné, elle a voulu gentiment me laisser passer. J'ai vu qu'elle commençait à glisser. Donc, je lui dis, hop, 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 prenez votre temps. On n'est pas pressé. Franchissez l'obstacle et je passerai après. Parce que bon, il y avait des ronces à droite et à gauche, mais voilà, encore une fois, là, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on perd du temps, mais malgré tout, au vu des sensations du jour, au vu des sensations très compliquées, des 10 derniers kilomètres durs que j'ai vécu, je savais que les 7 heures, c'était pas possible. parce que je le voyais à la montre qu'à un moment donné, j'avais déjà en fait 3200 et quelques à la montre. Non, 3300, voilà, et quelques à la montre, alors ils annonçaient 3100. Et là, je me dis, ben, il y a une couille quelque part. C'est où ils sont plantés sur le dénivelé positif. Il y a plus qu'annoncé. Parce que je savais que dans les 5 derniers kilomètres, dans les 7 derniers kilomètres, il y avait une petite montée où on reprenait presque 100 mètres, 150 mètres de D+, notamment au Chibot. Et je me suis dit, à mon avis, ils se sont plantés dans le D+. Et je me suis dit, je suis resté lucide. Je me suis dit, par contre, pour moi, c'est le parcours qui ment pas. Et cette montée au Chibot, quoi qu'il arrive, on doit la prendre. Donc, je sais qu'il reste à peu près 100 mètres de D+. Et il y avait des calculs. Je savais que les 7 heures, c'était pas possible. Mais du coup, je voulais vraiment tout donner pour passer sous 7h15. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai tout donné pour passer sous 7h15. Et j'ai réussi à passer en 7h12 et franchir cette ligne d'arrivée, vraiment, vraiment très content.
Ok, ouais. Bah, écoute, récit passionnant. Je pense que tu n'as rien oublié.
Non, voilà, j'ai rien oublié. C'était vraiment une course. Avec où je suis passé par tous les états, vraiment très 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 compliqué à des moments, mais très cool à d'autres moments. Un parcours vraiment au top. Et puis voilà, gagner une manche UTMB Series. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient être à ma place. Donc voilà, il faut être satisfait de la performance qu'on réalise, même si des fois le chrono n'est pas à la hauteur de nos espérances. Il faut remettre un petit peu tout dans son contexte, savoir si le chrono n'est pas à la hauteur de nos espérances, mais savoir si on était dans un grand jour, savoir si on était dans un jour compliqué, et tout ça, quoi. Et après, analyser vraiment à froid la course et en tirer, je pense, des inconvénients, c'est sûr. Il faut toujours regarder quand même les points négatifs, mais je pense qu'il faut quand même garder les points positifs et toujours quand même chercher à positiver malgré tout. Donc peut-être que si je n'ai pas eu des bonnes sensations, etc., j'ai quand même gagné une course UTMB. Donc ça, c'est voilà, c'est le plus important à retenir.
Ah oui, t'as bien raison, t'as bien raison. Bah écoute, Mathieu, je te remercie pour tout ça.
Eh bien, je te remercie à toi, Hugo, pour m'avoir donné de ton temps pour cette interview, en espérant que j'ai pu répondre à toutes tes questions et que ça plaira à tes auditeurs.
Ah ouais, bon, on prendra plaisir à te suivre sur la suite de la saison. Donc tu nous as dit, c'est la CCC. Merci
Voilà.
Mathieu, passe une bonne
Ben,
soirée,
merci à
dors
toi.
bien.
Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Hugo, et je te dis à une prochaine.
Salut!